Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, la parole est vivante. La parole est vivante. Et j'aimerais ce matin vous montrer comment la parole veut vivre en nous. Parce que on lit cette parole, on l'aime, mais est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle devient vivante en vous? Et en ce sens, Dieu, au cours de ma vie, et de plus en plus, me fait vivre la parole. Il me fait vivre la parole pour que je puisse la faire vivre aux autres aussi. Parce que c'est vrai que si on ne vit pas quelque chose personnellement, est-ce qu'on peut vraiment le transmettre? Alors, je prends quelques éléments que Dieu m'a fait vivre de sa parole et je m'attends encore à beaucoup plus. J'ai de la peine à prêcher sur ce que je ne vis pas. Je crois à la résurrection des morts, bien sûr, à la fin des temps. Mais je crois qu'il y a des résurrections de morts aujourd'hui. J'ai eu des témoignages de pasteurs, là, en Ouganda ou Rwanda. Je sais qu'il y a des résurrections. Mais personnellement, je n'ai jamais été l'instrument. Je n'ai pas encore eu assez de foi. Je n'ai pas vécu cela. Je ne peux pas prêcher sur cela. Je le crois dans la parole. Par contre, je peux dire quelque chose sur la délivrance des démons, je peux dire quelque chose sur la puissance de Dieu par rapport à la nature. Mais ce que je désire, c'est vivre les choses avec le Seigneur. Que la parole de Dieu soit vivante en moi pour qu'elle soit vivante aussi en vous. Alors, nous sommes juste après Noël et je pense à un texte que nous trouvons dans Ésaïe. On le lit souvent au temps de Noël, c'est la parole bien connue dans Ésaïe 9, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Et puis souvent, on s'arrête là, n'est-ce pas? Alors on sait très bien représenter la nativité, c'est très bien. Petit Jésus dans une crèche, le bœuf, l'âne, tout ça c'est magnifique, les bergers, les rois mages, tout est parfait. Donc nous avons notre monde à l'image, bien sûr, de l'enfant Jésus. Et puis, on a l'image aussi d'un Jésus qui est en croix. On voit des croix un peu partout, sur les bords des chemins, dans nos pays. Et puis après, quand on lit plus loin, on ne va pas souvent plus loin. C'est-à-dire que la souveraineté reposera sur son épaule. La souveraineté reposera sur son épaule. Alors on a de la peine à représenter la souveraineté de Dieu, on l'a mis dans les cathédrales, dans la voûte des cathédrales, vous allez trouver ce qu'on appelle le Christ Pantocrator, le Christ qui règne. C'est très beau de le mettre en haut des cathédrales, mais est-ce que le Seigneur règne dans vos vies? Est-ce que l'enfant Jésus, le Fils de Dieu, est devenu le roi de vos vies? Est-ce qu'il est le souverain de vos pensées, de vos vies, de vos projets, de tout ce que vous vivez, est-ce qu'il est le souverain? Alors, je me suis beaucoup attaché à cette notion de souveraineté. Dieu est souverain. Et par exemple, j'ai une manière de travailler l'écriture, alors je collecte des tas de textes qui me parlent, et puis je trouve une clé d'entrée et je fais un petit répertoire. Alors, par exemple, au psaume 47, j'ai environ ici, je pense, 40-50 textes qui nous parlent de la souveraineté de Dieu. Psaume 47, verset 6, « Dieu monte au milieu des acclamations, l'Éternel s'avance au son du cor, psalmodie en son honneur, car Dieu est roi de toute la terre. » Est-ce que Dieu est roi de toute la terre? Apparemment, les nouvelles, les informations ne nous disent pas cela. Et si on parle de ces choses, on nous dira, oui, alors, vous croyez ça, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai pour vous? Alors, quand vous aimez des textes comme ceux-là, quand vous, j'allais dire, vous mâchez, vous mangez cette parole, et que vous avez envie de connaître quelque chose de la souveraineté de Dieu, il va vous prendre au sérieux. Alors, je vous donne là un témoignage, comment Dieu m'a dit, mon cher ami, un jour, alors il me l'a dit ça après, c'est comme l'histoire de Job, il ne l'a pas dit d'abord, mais je veux te dire quelque chose de ma souveraineté. J'étais au Mali il y a bien des années, j'y vais souvent, dans d'autres endroits aussi, et quand je suis en Afrique, contrairement à ce que certains paroissiens me disaient, toujours bonnes vacances, monsieur le pasteur, certains, ils ont cru que j'étais toujours au bord de l'océan. Ils n'ont jamais réalisé, par exemple, Centrafrique, il n'y a pas d'océan. Mais ce n'est pas grave, ils croyaient que j'étais là sous les cocotiers. Et un jour, de temps en temps, Dieu donne une récréation. Alors, on devait aller visiter un terrain au bord d'un fleuve, et je me dis là, je peux aller avec eux, avec un chef de village et son fusil et tout. Moi, je prends mon appareil de photo. Et ce chef nous dit, qui s'est converti d'ailleurs, il dit, voilà, on va voir des animaux sauvages. C'est assez rare hein, au Mali, là, on va voir un crocodile, des hippopotames, des singes, etc. Moi, je trouve ça fantastique. Quand on se promène dans les montagnes, chers amis, si vous voulez voir des animaux, soyez devant. Parce que quand vous arrivez à la cabane, ceux qui sont devant vous disent, on a vu des bouquetins, des chamois, on a vu des marmottes et tout. Et les derniers, ils n'ont rien vu. Donc, je me suis dit que je dois être derrière ce chef avec son fusil, comme ça. Je prépare mon appareil de photo et je verrai des choses. Alors on part, mais juste avant de partir, au moment de descendre là du pick-up, il y a un frère pasteur africain qui me dit, frère, je ne suis pas bien, est-ce que tu peux prier pour moi? Moi, je trouvais qu'il allait pas si mal et qu'il avait surtout pas envie de marcher. Mais je lui ai dit, écoute, je prierai pour toi tout à l'heure. Je me doutais pas, je pensais qu'on partait pour une demi-heure, je me doutais pas que ça allait durer 2 heures. Alors on part, on arrive au bord du fleuve après un quart d'heure, et le chasseur est étonné, dit, d'habitude, il y a toujours un crocodile ici, sous les arbres, qui se repose, là, dans l'eau. Ben, aujourd'hui, il n'est pas là. Alors moi, ça commençait à cliquer un peu dans ma tête, vous voyez, comme ça, juste un ou deux flashs. On va plus loin, et puis, le chasseur trouve une crotte de grand singe, toute fraîche. On regarde partout, pas de grand singe. Et là, Dieu me parle sérieusement. Il me dit, mon cher ami, tu n'as pas été fidèle. Ce frère t'a demandé de prier pour lui. Tu devais prier pour lui, parce que je veux te dire une chose, mon ami. Les animaux, c'est moi qui en suis le souverain. Je peux te les montrer et je peux les cacher. Oh, la leçon devenait dure. Et j'étais déjà reconnaissant qu'il ne m'ait pas mis le nez dans la crotte. Alors on va plus loin, il dit on va aller voir, il y a des hippopotames là-bas, et on n'a vu que les traces des hippopotames, mais des animaux je n'en ai point vu. Et Dieu m'a dit, c'est ça ma souveraineté, sois obéissant, obéis à ma parole, obéis, ce frère t'a demandé la prière, tu n'avais pas à te poser la question s'il était malade, s'il voulait marcher ou pas, d'ailleurs quand on est rentré 2 heures après, il allait très bien, mais peu importe, je n'ai pas été fidèle. Et Dieu m'a donné une leçon sur sa souveraineté. Environ 1 année ou 2 ans plus tard, des personnes, quand j'étais là-bas pour 6 mois en Afrique du Sud, des personnes m'ont offert le Kruger, le parc animalier extraordinaire. Alors quand je suis arrivé là-bas avec ma petite voiture louée, j'avais une conversation avec le Seigneur. Seigneur, où est-ce que nous en sommes avec les animaux? Et il m'a fait la grâce de voir des choses étonnante. Pendant 8 jours, il m'a montré la beauté de ces animaux. J'ai vu des panthères que des Sud-Africains n'ont jamais vues malgré plusieurs passages dans le Kruger. C'est pas si évident que cela. Dieu est Dieu, il est souverain. Il est souverain. Donc il m'a aidé à vivre cette parole, il est souverain. Et du moment que je suis là avec les animaux, il y a plus qu'une image, une réalité du Seigneur Jésus qui me parle beaucoup. Il est bien sûr l'agneau de Dieu, bien sûr, qui a donné sa vie pour nous, qui a souffert, qui a été crucifié, qui a été sur l'Holocauste, oui. Mais il est aussi, il est le lion de Juda. Qui a vu Narnia récemment? Oui. Le lion Aslan, il est le lion de Juda. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que aujourd'hui, Jésus règne dans les cieux et il règne sur la terre. Et il règne en tant que lion de Juda. Bien sûr qu'il est l'agneau de Dieu, mais il est le lion de Juda. Alors, Dieu m'a dit, je veux te montrer une fois ce qu'est vraiment un lion. Alors, dans des circonstances un peu étonnantes, j'ai dû planter ma petite tente sur la montagne appelée la montagne des lions. Je n'avais pas d'autre choix. Alors, on m'a dit, faites très attention, ça, c'est dangereux, il y a des lions là, et puis des buffles et tout. Alors, j'ai planté ma petite tente et au moment d'y entrer, j'entends le rugissement du lion qui était vraiment pas loin. Je n'ai pas fermé l'œil, chers amis. Non pas parce que j'avais peur. J'ai voulu toute la nuit entendre le cri du lion. Toute la nuit, je me suis empêché de dormir. C'est bouleversant, j'étais bouleversé par ce cri du roi des animaux qui fait trembler littéralement le sol et la nature. C'est impressionnant, un cri de lion près de sa tente. Et je savais que je ne risquais rien, que Dieu est en train de me parler de qui est le lion de Juda, qui rugit aujourd'hui déjà. Il rugira bien sûr sur la terre, et tous les gens vont tomber à genoux. Mais il rugit déjà, si on veut le laisser rugir dans sa vie, dans sa situation, dans sa souffrance. Le Seigneur veut rugir. Il est le lion de Juda. Alors, ce lion de Juda, il règne. Un roi a un royaume. Son royaume, c'est l'univers entier. C'est la terre, c'est son royaume. Sans exception, il n'y a rien, rien sur cette terre, hormis le péché, où le Seigneur ne veut pas régner. Il est le roi, tout lui appartient. Il est le créateur. Et il a un peuple, un roi a un peuple. Le peuple, c'est l'Église, c'est vous, frères et sœurs. L'Église qui se lève, de grandes églises. Moi, je vois des bouchons sur la route, je vois que la police doit se mobiliser parce qu'il y a trop de chrétiens qui iront célébrer le dimanche matin. Gloire à Dieu pour les assemblées qui se lèvent. Gloire à Dieu. Son Église est belle, il faut qu'elle soit plus belle encore. Mais, frères et sœurs, n'oubliez jamais une chose. L'Église, l'épouse de Jésus, c'est l'instrument de Dieu aujourd'hui pour établir son règne sur la terre. Ce n'est pas une finalité en soi. C'est là qu'on vient prier, louer, prendre la Sainte Cène. C'est là qu'on vient être instruit en vue de transformer, en vue du projet, du grand projet de Dieu. Et j'entre dans le texte suivant de ce que Dieu me permet de vivre sa parole dans ma chair, dans mes tripes, dans ma prière, dans mes peurs, mes angoisses, dans le bonheur, la joie de l'exaucement. Vivre la parole de Dieu. Alors un texte qui m'est très cher depuis longtemps, j'en ai déjà parlé ici, c'est Ésaïe 19. Quand il est dit, vous pourrez relire ça chez vous, Ésaïe 19, versets 23 et 24. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens. Assyriens, c'est en fait l'Irak d'aujourd'hui. Rendront culte à l'Éternel. Les Égyptiens avec les Assyriens rendront culte à l'Éternel. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et l'Assyrie à être une bénédiction par toute la terre que l'Éternel des armées bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Chers amis, ces choses ne sont pas encore arrivées. Elles sont devant nous. Réfléchissez un petit moment. Il y a la guerre là-bas depuis des dizaines d'années. La haine entre les fils d'Ismaël et d'Isaac. Mais il y a des promesses très précises pour les fils d'Ismaël. Et ces choses vont se réaliser un jour. Imaginez un instant. Quand les télévisions du monde entier rapporteront qu'il y a un seul peuple entre Israël, l'Égypte et la Syrie. Et ce n'est pas du hasard s'il y a ces peuples. C'est en Égypte qu'ils ont été esclaves. C'est en Égypte que Jésus a pu se réfugier avec ses parents. Et c'est à Babylone que le peuple a été en esclavage, a été déporté. Dieu a un plan très précis, des promesses qui vont s'accomplir. Et cette route, pour moi, c'est la route où on marche, alors qu'il est un sentier sur nos vies, qui est un chemin, bien sûr. Mais c'est la route de l'espérance, c'est la route de l'espoir. Donc vous marchez vers cette route, vous voyez cela en perspective, et vous n'êtes plus à contempler seulement tout ce qui ne va pas dans vos vies ou ailleurs, ou dans notre monde. Vous marchez quelque part, avec le roi des rois, le lion de Juda. Vous avez un projet qui vous aide à vivre dans votre quotidien. Alors, comment est-ce que Dieu m'a fait réaliser cette parole que j'aime tant, de cette route de l'espoir? Eh bien, depuis 4 fois déjà, il m'a fait emprunter ce qu'on appelle la route de l'espoir. Et la route de l'espoir, c'est celle qui va depuis Nouakchott, capitale de la Mauritanie, jusqu'au nord du Mali, là-bas en direction de Tombouctou. Ça s'appelle la route de l'espoir. Vous direz, c'est formidable, oui. Partir d'ici avec des camions, des 4x4, amener du matériel, des véhicules en Afrique, jusque dans le midi de la France, magnifique, traverser de la mer Méditerranée, magnifique. Le Maroc, très beau pays, magnifique. Sahara occidental, exceptionnel. Vous êtes dans le désert et à côté de l'océan, c'est d'une beauté impressionnante. Et puis après, vous traversez la Mauritanie et la route de l'espoir où on tue, où on assassine, où on enlève les gens. Alors quand des gens disent « j'aimerais bien venir avec toi », je dis « est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts à mourir, chers amis ?» Alors on me dit « c'est de la folie d'aller là-bas ». D'ailleurs, le gouvernement dit « n'y allez pas ». Alors est-ce qu'on va obéir au gouvernement ? Oui, je suis pour le respect des autorités. Je suis pour obéir aux autorités. Mais ce qui compte d'abord, quelle est la pensée de Dieu? Alors quand on me dit « n'y allez pas », je dis « oui, mais il y a beaucoup de pays où il ne faut plus aller ». Et des enlèvements, ça vient lentement partout. Hier encore, je crois, on a enlevé quelqu'un au Mexique. Si on commence à faire la liste des pays où on risque quelque chose, chers amis, vous allez souvent rester chez vous. Qu'est-ce qui compte? Parce que la Bible dit « offrez vos vies comme un sacrifice vivant, sain et agréable ». Est-ce qu'on a offert sa vie? Si oui, ça veut dire que nous sommes morts en Christ. Alors moi je dis sans rouler les mécaniques, bien sûr. Si Dieu permet un enlèvement ou un assassinat, il est Dieu. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Chers amis, ce qui est dangereux, c'est d'être à côté de la volonté de Dieu. Ça, c'est dangereux. Mais dans la volonté de Dieu, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de mourir, c'est vrai. Et il y a tous les jours des hommes, des femmes, des enfants qui meurent à cause du nom de Jésus. Et cela augmente de plus en plus. C'est terrifiant, tout ce qui se passe. Moi, des fois, je suis lourdement chargé par le sort de nos frères et sœurs. Et cela se rapproche de nous. Et j'ai été confronté, pour la première fois de ma vie, à la persécution. J'ai eu des persécutions ici, de toutes sortes, les journaux, tout ça, voilà. Mais, j'avais un ami en Mauritanie, un ami Chris, qui s'appelle Chris, assassiné par Al-Qaïda. On travaillait avec lui, père de 4 enfants, tué froidement par Al-Qaïda. Alors, est-ce que vous vous mettez encore en route pour traverser la Mauritanie? Est-ce que vous avez encore le courage de vivre ces voyages? Et c'est là qu'on commence à prier très sérieusement, les amis. Quelle est ta pensée? Quelle est ta volonté? Et au mois de décembre, l'année passée, Dieu a dit non, ne partez pas. Et puis, on pensait aller en avion, il a dit non, n'allez pas en avion. Et Dieu a ouvert la route pour le mois de septembre. Et au mois d'août, alors qu'on venait d'assassiner ce frère français, là, évidemment, les gens vous disent, c'est de la folie, ne partez pas, mais Dieu est Dieu. Il est souverain. Il est le lion de Juda. Il nous parle. Une nuit, il m'a réveillé. Il m'a dit, lis le psaume 78. Et au milieu du psaume 78, il était dit textuellement, vous serez en sécurité dans le désert. Dieu est Dieu. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, il a permis qu'un frère sénégalais qui a voyagé dans le sens contraire avec une voiture, lui qui ne risque pratiquement rien, Il est informaticien et à Nouakchott, la police lui a demandé de réparer un ordinateur. Il a réparé cet ordinateur et le grand chef de la gendarmerie nationale de Mauritanie lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il a dit « J'ai des amis qui vont venir en convoi humanitaire, plusieurs véhicules, un camion, etc. » Il a dit « Alors, voilà mon numéro privé de téléphone. Dès qu'ils sont à la frontière, ils doivent me téléphoner. » Alors on a téléphoné et on avait ordre sur plus de 2500 kilomètres de ne s'arrêter que vers la gendarmerie lourdement armée pour manger, pour dormir. On a dormi dans le désert à côté d'eux et on a vécu des choses étonnantes. Un de ses chefs a dit « Demain matin, je vous apporte le petit déjeuner. » En plein désert. Il nous a amené des baguettes parisiennes. Il y a des baguettes parisiennes là où les Français ont colonisé. Et puis du lait de chamel. C'est impressionnant. Je pensais à Élie qui était nourri au torrent du Kérit, n'est-ce pas ? Dieu est Dieu. Et on a, ces hommes ont pris soin de nous. Ils se téléphonaient d'un poste. Il y a des postes à peu près tous les 100 à 150 kilomètres. Ils disaient, voilà le convoi qui est à telle heure. Et au bureau national, ils suivaient notre convoi heure après heure. Dieu est Dieu. Mais si une fois, il veut faire autrement, et mon épouse est bien avec moi, mes enfants aussi, on sait que ça peut arriver. Mais, chers amis, c'est à côté de la volonté de Dieu que nous sommes le plus en danger. Aimons la volonté du Seigneur. Il est Dieu, il est roi. Il est souverain. La route de l'espoir. La route de l'espérance. Et puis, les prodiges, les signes et les miracles. Moi, j'y crois depuis toujours. Depuis la conversion à l'âge de 18 ans, j'ai chéri ce texte dans mon cœur. Voici les signes, les prodiges et les miracles. Alors, je n'ai pas tout vu, pas tout vécu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je réalise de plus en plus que nous vivons dans le royaume de Dieu déjà ici. Et ça, c'est très particulier si on y réfléchit. Vous voyez, j'ai souvent donné des conférences pour encourager les parents dont les adolescents voulaient à tout prix lire Harry Potter. Je leur donnais des conseils en disant, écoutez, faites un deal là avec vos ados. Vous permettez qu'ils lisent ouvertement ces livres. De toute façon, ils vont les lire chez les copains ou sous la couette pendant la nuit. Ils vont voir les films. Alors, vous pouvez leur permettre de les lire. Mais vous allez aussi les lire et vous aurez des discussions pour comparer Harry Potter et la parole de Dieu. Et j'ai donné beaucoup de conseils, beaucoup de parallélismes. Or, une des choses intéressantes, si on peut nous dire ça, c'est que les sorciers, c'est une réalité. Ils vivent dans un monde parallèle. Ils vivent des choses qui nous échappent complètement. Et il faut aller en Afrique des fois pour mesurer encore plus ce que veut dire la sorcellerie. Il y a des gens qui peuvent être invisibles, qui peuvent être transformés dans des animaux. Ce sont des réalités. Alors on dira, oui, 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 quand même. Oui, parce que nous sommes pris ici par un esprit rationaliste. Mais quand dans ces conférences, je disais, par exemple, est-ce que la professeure McGonagall, par exemple, donnait sa première leçon aux étudiants de première année, au collège là de Poudlard, pour dire comment est-ce qu'on va transformer la matière en matière vivante ? Alors, elle donnait une démonstration, elle transformait son bureau en cochon. Et puis après, ça devenait de nouveau un bureau. Et je disais à l'Assemblée, vrai ou faux ? Faux, c'est pas possible. D'accord. Alors, Moïse qui jette son bâton par terre et qui devient un serpent, ah oui, 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 après tout, c'est vrai. Nous n'avons aucune idée de la puissance de Dieu qui est supérieure, bien sûr, aux sorciers. Le bâton, le serpent de Moïse a mangé les serpents des occultistes. Mes chers amis, si on réfléchit à cela, vous imaginez un instant ? Vous imaginez un instant que des sorciers ont pu, par la puissance des ténèbres, transformer un bâton en serpent ? Alors, quand on prend conscience que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu qui s'est approché de nous, qui vit en nous, ça change quelque chose. Ça veut dire que nous sommes fils de roi, nous sommes au service du Seigneur, ambassadeurs, quel honneur. Et on vit déjà quelque chose d'étonnant. On vit des choses impressionnantes par rapport à la nature. Je me souviens, là, au Mali, il y a quelque temps, je vais pour présenter la sympathie. Un ancien était décédé, ils sont animistes, légèrement musulmans, mais d'abord animistes. Et je prends toujours la parole de Dieu avec moi. Je la lis même au pied de la mosquée, je la lis devant la maison des sorciers, ça m'est égal. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, ils ont voulu me tuer déjà au moins une fois, mais Dieu est Dieu. Et là, je lis toujours la parole du bon berger. Le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Alors il y a des voleurs qui sont venus avant Jésus, il y a des voleurs qui sont venus chez vous pour vous dire plein de choses, mais Jésus est celui qui veut la vie pour ses brebis. Et je lis le bon berger, et puis après, je demande à ces gens s'ils ont une prière, est-ce que je peux prier pour eux. Et là, au milieu de la saison sèche, où il ne pleut pas pendant 8 mois, ils me disent, est-ce que vous pouvez prier pour la pluie, pour qu'on ait une pluie qui vienne un peu rafraîchir et faire pousser un peu nos légumes. Eh bien là, vous avez une dose d'incrédulité, les amis, qui est assez forte. Vous vous sentez vraiment petit. Et je me suis dit, ben voilà, je prie, Seigneur, j'ai prié quand même avec sincérité pour que Dieu exauce leurs souhaits. Le lendemain, on rentrait à la capitale, sur Bamako, et le lendemain, ils ont envoyé le seul chrétien. Il y a un seul couple chrétien, loin à la ronde, dans ces villages où il y a des centaines de milliers de personnes, répartis en villages de 1 000, 2 000, 3 000 habitants. Et il n'y a pas de téléphone encore, mais il y a une butte, à un moment donné, où parfois ils ont du réseau. Ils ont envoyé cet homme chrétien. Vous voyez, ils savent toujours trouver les chrétiens quand il faut. Va dire à l'homme de Dieu, il pleut à verse depuis ce matin. Dieu est Dieu, chers amis. Dieu est Dieu. On n'a pas assez conscience de la puissance de Dieu et qu'on vit déjà quelque part dans ce qu'ont vu le film, quelque part dans ce royaume de Narnia, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis, ce n'est pas encore le royaume des cieux, mais ce n'est plus tout à fait la terre. Si vous réalisez cela, Dieu est Dieu, il est souverain. Est-ce qu'il est souverain de vos vies? Est-ce qu'il est le roi? Est-ce qu'il est le lion de Juda de vos vies? Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Alors vous ne risquez plus rien. Sinon, toutes les peurs de ce monde ici. Mais si vous n'êtes plus vraiment de ce monde-là, est-ce qu'il y a encore ces peurs? Je dis ça, je ne le dis pas légèrement, puisque je vous l'ai dit. J'ai perdu un ami. Et quand vous êtes confronté pour la première fois à un tel drame, ça vous fait vraiment réfléchir. Vraiment. Dieu est Dieu. Alors vous direz oui, et puis les ennuis. Eh bien, ils font partie de la souveraineté de Dieu. Moi, j'ai arrêté de lutter et de bagarrer. Je ne dis pas que ça ne m'arrive plus. Mais si vous êtes dans cet état d'esprit, si vous vivez cette dimension-là, bien sûr, le péché est encore là, parfois le découragement, mais oui, toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui domine dans vos vies? Il y a des moments plus difficiles, des jours gris, des jours plus sombres, oui. L'épreuve, j'en connais un bout, je peux vous en parler. Elle est présente dans ma vie, depuis presque toujours. D'ailleurs, quand j'ai été consacré à la collégiale de Neuchâtel, une sœur en Christ dont l'attestation de ses visions et de ses prophéties sont avérées depuis longtemps, a eu une révélation pour moi. Tu vivras un ministère dans la souffrance. C'est pas agréable d'entendre ça, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Mais cette souffrance n'occulte pas, la gloire de Dieu n'occulte pas sa parole qui se vérifie dans ma vie, et j'attends plus encore, et qui veut se vérifier dans la vie des autres. Dieu est Dieu. Alors j'ai un bus extraordinaire qui est là sur le parking. Et je le vois depuis ici. Magnifique. Il a une grande histoire. Bouleversant. Une histoire fabuleuse. C'est devenu ma chambre de louange. Je fais des milliers de kilomètres. J'ai même pas réparé la radiocassette. Je loue le Seigneur sur des milliers de kilomètres. C'est ma chambre de louange. Je suis bien. Ce bruit du moteur diesel, On est assis assez haut. J'ai mis des sièges de camions qui sont presque sur coussin d'air. C'est fantastique. J'ai un lit, j'ai un bureau, c'est parfait. C'est magnifique. Et j'avais dit, voilà, il faudrait peut-être que je refasse un peu de mécanique pour un peu voir ça. Or, Dieu prend ça au sérieux. Or, il a créé une première panne assez importante. Le piston de l'embrayage, c'est pas très simple à changer quand vous êtes couché sur un trottoir. Et puis, ça suffisait pas. Il a créé une autre panne, juste une petite goutte d'huile qui coulait pour l'expertise. Et finalement, il a fallu démonter presque tout le moteur sous les yeux aguerris d'un ami qui est garagiste, bien sûr. Mais j'ai passé quand même 4 à 5 jours de mécanique parce que Dieu a dit, tu veux connaître un peu ce moteur, d'accord, ben je te crée une panne assez sérieuse. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Si, vous voyez, quand il y a un revers dans votre vie, comment vous le vivez? Est-ce que vous dites, voilà, j'ai encore péché, je suis pécheur, je suis sous la culpabilité, Dieu est contre moi, il ne permet pas qu'il y ait la bénédiction. D'ailleurs, qu'est-ce que la bénédiction, sinon la présence constante du Seigneur? La bénédiction, ce n'est pas un truc qui arrive de temps en temps. C'est un style de vie. Vous pouvez chercher partout le mot bénédiction dans la Bible. C'est un style de vie. C'est, quand on dit Seigneur, bénis-moi, ça veut dire transporte-moi déjà dans ton royaume qui vient. Alors il y a le déjà et le pas encore. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est de changer de vie, c'est de perdre sa vie. De renoncer, mais Dieu est Dieu. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, peut-être que tu veux me dire quelque chose, mais c'est dans ton plan d'amour. Tu restes souverain de cela. L'apôtre Paul chantait des cantiques, vous imaginez, dans sa prison. Parce qu'il savait qu'il était dans la main de Dieu, il ne savait pas pourquoi, mais Dieu savait qu'il fallait la conversion du geôlier. Et puis quand Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », c'est une parole qu'il avait de la peine à recevoir. Et puis j'ai pensé, c'est facile pour Paul, il a un problème, il y a un ange qui arrive. Il voit un paralytique, prie pour lui, il est guéri. Moi je serais aussi heureux tout le temps avec ça, bien sûr. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que Paul écrivait cette parole, il était depuis 2 ans en prison. Depuis 2 ans stoppé dans ce qui brûlait dans son cœur, de parcourir le monde, d'aller même jusqu'en Espagne. Mais quand on marche avec le roi des rois, quand on est déjà dans ce royaume qui n'est pas manifesté encore pleinement, qu'on est sur la route de l'espoir, alors les choses qui arrivent, qui sont contraires à notre imagination, à ce qu'on aimerait, on les reçoit en disant, Seigneur, quel est ton plan dans cette situation? Pourquoi tu permets qu'on vive cela? Je suis en train de démonter des cabinets dentaires. C'est vraiment compliqué. J'ai démonté, là, il y a 2 ans, une radiologie chez un médecin. Je trouvais que c'était déjà assez compliqué, mais vous savez, quand vous êtes sur la chaise, vous ne vous rendez pas compte le nombre de tuyaux qui sortent du sol pour que vous soyez bien soigné. C'est inimaginable. L'eau propre, l'eau sale, la pression, l'air, l'électricité électronique, c'est très compliqué. Sous le siège du dentiste, vous y penserez la prochaine fois, c'est une foule de tuyaux, de fils de toutes sortes, etc. Alors quand il faut démonter tout ça pour remonter en Afrique, c'est assez compliqué. Donc je passe des heures aussi avec des amis couchés par terre, mais c'est super parce que j'ai appris que quoi qu'on fasse, faites-le comme pour le Seigneur. Et que le Seigneur est le Seigneur de toute la terre, il est le Seigneur de toutes les choses. On prépare cette route, on prépare la venue du roi, on prépare la gloire et l'honneur des nations. Dans son jardin, ses fleurs, dans son appartement, dans son travail. On veut que tout soit beau et bon pour le Seigneur. Alors, là, j'avais rendez-vous avec un technicien parce qu'il y avait des problèmes. Je pars avec ce cher bus de fonction. Et à Neuchâtel, impossible de parquer. En France, il passe dans les parkings souterrains, mais pas à Neuchâtel, c'est trop bas. Je ne pouvais pas parquer, point à la ligne. Et à 3 heures, j'avais rendez-vous avec ce technicien, je lui téléphone, il était derrière la porte fermée, il venait du loc tout exprès, enfin bon, voilà. Je me disais, mais Seigneur, tu me laisses tomber, qu'est-ce qui se passe, enfin, etc. Bon, j'ai continué d'aller seul pour faire des photos, déconnecter, etc., voilà. Et puis, le siège, ce siège-là, on n'a pas pu le mettre dans l'ascenseur, on n'a pas pu en arriver au bout, il est toujours là-bas. Une grande partie du matériel, c'est déjà à Tavannes. Mais J'ai réalisé que j'aurais demandé seulement des affaires de connexion à ce technicien, je ne lui aurais pas parlé du siège. Et maintenant, j'aurai un rendez-vous cette semaine avec lui et on va parler du siège. Dieu a permis que je ne parque pas, je n'étais pas content, je perdais mon temps, j'ai l'impression qu'il me laissait tomber. Non, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, chers amis. Il est dit aussi, soyez des lettres écrites et portez en vous la bonne odeur de Jésus. Alors, bien sûr, j'ai rien contre le parfum. C'est bien d'en mettre un peu. Vous voyez, du Givenchy, tout ça, je connais 2-3 marques comme ça, j'aime bien faire des petites offrandes à mon épouse aussi, bien sûr. Mais la bonne odeur de Jésus-Christ, ayez en vous cette bonne odeur. Soyez des lettres écrites. Souvent on se dit, qu'est-ce que je pourrais éventuellement donner à un voisin, ou à un passant dans la rue, à un autostoppeur, je pourrais lui donner l'évangile de Jean, bien sûr, formidable, ou un traité, mais oui, merveilleux. Mais prenez conscience. Vous êtes une lettre écrite. C'est encore mieux. Une lettre vivante. C'est fabuleux. Les gens vous lisent. Ils peuvent vous lire. Ils peuvent sentir la bonne odeur de Jésus-Christ. Mais c'est une réalité, les amis. Vous êtes porteur de l'Esprit-Saint. Quand vous entrez dans un magasin, vous portez le Seigneur en vous, Père, Fils et Saint-Esprit, rempli du Seigneur, de la bonne odeur de Jésus. Alors, vous vivez les choses différemment. Vous vivez les choses différemment et vous êtes agréable. Vous ne vous forcez pas, mais vous êtes agréable. Il y a un petit mot pour la vendeuse qui est fatiguée. Il y a un petit mot peut-être pour quelqu'un là qui est sur votre route. Je ne veux pas dire que j'aime tellement faire les courses avec mon épouse à la Coppée, je ne dis pas ça, ou dans un magasin. Ce n'est pas mon truc rêvé. Mais depuis que je me dis que là, c'est le chemin du Seigneur aussi, je vis les choses différemment. Ça m'énerve presque plus. Corinthiens 3, 2, soyez des lettres écrites, et 3, 4, ce passage, 2 Corinthiens 3, vous pouvez le relire, soyez des lettres écrites. Quand on descendait là pour le dernier voyage, le dernier voyage, il y en aura d'autres, mais on est descendu cette fois jusqu'au sud de l'Espagne et notre équipe s'arrêtait là. On était encore dans des autoroutes, sur des autoroutes, encore des aires d'autoroutes. Et sans qu'on dise un seul mot, rien, par deux fois, des personnes qui étaient dans des camions-caravanes m'ont dit « Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ?» Ils sentaient la bonne odeur de Jésus. Ils voyaient quelque part une lettre écrite. Ils voyaient dans le regard de ces gens qui étaient ensemble, dans leur amour, leur manière d'être, peut-être la joie intérieure, je ne sais pas. Mais ils voyaient quelque chose de spécial. Ils disaient, mais c'est qui? Qu'est-ce que vous faites? Et je me rappelle le témoignage de Ralph Chalis, qui a vécu un début de réveil en Algérie après la guerre. Et il disait, il y a eu une telle puissance de Dieu que quand 2 ou 3 chrétiens parlaient ensemble dans une rue, il y a des gens qui s'arrêtaient, qui disaient, qu'est-ce qui se passe ici? Et ils se convertissaient. Comme Jacob, Dieu était là et je ne le savais pas. Dieu est là en vous, chers amis. Et donc, si vous commencez de croire ces choses, de le vivre, vous allez le vivre. Je me souviens une fois, j'allais pour faire la dent blanche et à la cabane, on arrive le soir là, fatigué. Et puis, je monte au dortoir et il y avait là des alpinistes qui se reposaient. Et puis, je les salue, ils ne dormaient pas, sinon je me serais tué. Mais je les salue, je dis un mot comme ça. Et quand je redescends, il y a quelqu'un, on me l'a dit après, qui dit... Ce gars-là, il serait pasteur, ça ne nous étonnerait pas. Mais il ne me connaissait pas, sauf un, Monsieur Eseling, qui dirige le magasin Eseling Sport à Bienne, a dit oui, ben je le connais, il est effectivement pasteur. Chers amis, nous portons la bonne odeur de Jésus. C'est extraordinaire, dans un monde qui ne sent pas très bon, nous portons la bonne odeur de Jésus. Mais pour cela, il faut toute cette démarche. Il est le Seigneur, il est le roi des rois, il est souverain. Il règne, il est le lion de Juda. Et je terminerai en disant comment développer cette bonne odeur de Jésus-Christ en nous. Et cette lettre écrite, il est dit dans ce texte de Corinthiens, 2 Corinthiens, Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est l'odeur de sa connaissance. Apprendre à connaître le Seigneur par sa parole, ça a été dit ce matin, mais aussi par sa relation avec lui. Et sa relation avec lui, et c'est aussi une parole qui devient vivante en moi, c'est la louange. Il m'a fallu des années pour que je comprenne vraiment ce qu'était la louange. On le dit partout, il y a des livres qui existent. Louez le Seigneur, vous serez délivrés de vos ennemis, on a des séminaires, on loue le Seigneur à l'église. Béni soit Dieu pour ce temps de louange qui m'a béni profondément. Mais dans votre vie personnelle, est-ce que la louange s'attache à vos pas? Alors, on a l'habitude de prier plus ou moins longtemps, de redire au Seigneur plein de choses, souvent les mêmes choses. Est-ce que l'adoration, est-ce que la louange, parce que finalement, Dieu cherche des adorateurs. Et là aussi, j'étais convaincu que c'était juste. Quand j'entendais les frères et sœurs qui parlaient de la louange, je me disais, c'est vrai, c'est juste, mais je ne vis pas encore cela. Je suis encore trop dans l'intercession, et puis, etc. Mais la louange, bon, je te bénis Seigneur. Mais j'ai décidé peu à peu de changer cela. Alors, j'ai commencé d'apprendre des tas de cantiques par cœur. Et puis, comme j'essaye d'apprendre l'anglais depuis 40 ans, je chante des chants en anglais. Donc, ma louange, c'est essentiellement des chants en anglais, aussi en français. Je reprends des chants du passé, etc. Et je loue le Seigneur. Et j'ai trouvé une joie incroyable à louer le Seigneur au travers de cantiques. Et j'aime prendre du temps pour chanter des cantiques. Alors, Dieu me bénit avec ce bus parce que je suis allé à Paris, là, au mois de novembre, par les petites routes, c'est encore mieux, ça coûte moins cher, c'est tellement beau. Et puis, j'ai encore plus de temps pour louer le Seigneur. Je peux le louer sur 500 kilomètres. Parce que la louange est entrée dans ma vie. Et je crois que la bonne odeur vient de la connaissance de Jésus. Et la connaissance de Jésus vient de la parole de Dieu, de manger littéralement cette parole, mais aussi d'être un adorateur du Seigneur Jésus. Et là, quand on adore le Seigneur, on lutte de tout son être contre la puissance des ténèbres. Parce que notre monde ne cesse de nous dire que rien ne va plus. Et c'est vrai, sous un certain angle, rien ne va plus. C'est tragique ce qui se passe. C'est noir, c'est sombre, c'est douloureux, c'est effrayant. Les mœurs de notre pays, si on commence d'en parler, c'est effrayant. Effrayant. On est même à la veille de tolérer l'inceste. C'est inimaginable. Inimaginable. Mais est-ce que c'est ça qui domine dans vos vies? Est-ce que dans la prière, vous allez dire, Seigneur, c'est vraiment triste, je te prie de changer quelque chose? Ben oui, on peut le faire aussi. Mais d'ailleurs, quand on a un bon temps de louange, l'intercession devient quelque chose de puissant. Ça devient puissant. Mais si vous avez peu de temps, commencez par louer le Seigneur. Que ça devienne une habitude dans vos vies. Je te loue, Seigneur. Je te bénis. Et on chante des cantiques. Et une fois, j'étais meurtri par une lettre d'accusation contre moi qui était fausse. J'étais fâché. J'en voulais à ce frère. J'avais envie de lui écrire, d'aller le trouver. Alors, j'entre dans la louange, mais je n'arrivais pas à aligner la première strophe. J'ai persévéré, il m'a fallu ce jour-là, 3 quarts d'heure pour que je puisse chanter toutes les strophes. Mais j'y suis arrivé comme si je devais forcer le passage, et après toute la journée, ce chant a résonné dans mon cœur et dans ma tête. Et j'étais libéré. Je ne sais pas dire, je ne pouvais pas écrire à ce frère, mais j'étais libéré. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, nos ennemis intérieurs. Il y a un secret dans la louange. Chantez des cantiques, chers amis. Je vous le dis, persévérez, chantez les louanges du Seigneur. Et j'aime à chanter des cantiques, j'aime à chanter, et je les reprends. Et puis ces paroles, je les mets peu à peu dans mon cœur, dans mon âme. Et j'aime louer le Seigneur. Et j'aime chanter des cantiques, les vieux cantiques pentecôtistes. Il est Dieu, la louange dans nos vies. Et après, vous portez la bonne odeur de Jésus. La bonne odeur, non pas de l'amertume, de tout ce qui n'est pas exaucé, de tout ce qui ne va pas. Je ne dis pas qu'on vête ça sans autre. On en parle avec son Seigneur. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Par la supplication, oui, bien sûr. Le pain quotidien, oui, bien sûr. Mais quand vous bénissez le Seigneur, vous le reconnaissez comme roi, comme lion de la tribu de Juda. Et peu à peu, cette bonne odeur, cette lettre écrite pénètre votre vie et vous devenez quelqu'un d'agréable pour ceux qui vous entourent. Alors, je vais terminer ici. S'il y avait quelqu'un, bien sûr, on pourrait faire plusieurs appels en fonction de ces différents thèmes. Mais si quelqu'un ici disait, je veux entrer dans ce monde-là, dans ce monde de Dieu. Le Seigneur n'a jamais été vraiment mon roi. Je l'ai plutôt tenu à l'écart, comme au jardin d'Éden. Je me suis caché. J'ai eu peur de toi. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment donné votre vie au Seigneur. Vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur. Il n'est pas le roi de vos vies. Il n'est pas le lion de Juda. Vous avez mille et une peurs de toutes sortes de choses parce que vous êtes enraciné dans ce monde-ci. Vous n'êtes pas transporté dans le royaume du Fils de son amour. Vous n'êtes pas assis dans les lieux célestes avec Christ. Alors si, on pourrait appeler ça conversion, mais c'est pas, je ne veux pas l'appeler comme ça. Si quelqu'un disait ce matin, moi je vais entrer dans ce monde-là. Je suis fatigué de ramer dur dans ce monde-ci, je veux être dans le monde de Dieu. Où il y aura aussi des souffrances, des enlèvements, des assassinats. Oui, et je ne le dis pas légèrement, vous le savez. Où il y aura des revers, des pannes, des souffrances physiques, morales. Mais avec, aux côtés d'Aslan, le roi des rois, aux côtés du lion de Juda, ça change tout. Ça change tout. Et peut-être que sa souffrance-là veut disparaître quand le lion va rugir dans vos vies. Il aimerait peut-être rugir, mais il faut déjà le reconnaître comme roi.